Barre-toi. 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 Barre-toi.
Tribune libre.
Bah c'est une émission.
Une tribune libre.
C'est une émission, c'est sur Air d'Ivoire. C'est sur comment ?
Tribune libre.
Air d'Ivoire, c'est sur Air d'Ivoire.
Une tribune libre.
Avant de mourir.
Chers auditeurs, c'est de nouveau Tribune libre, présentée aujourd'hui par Philippe. J'aurai des questions d'une voix que vous allez peut-être reconnaître, qui vont arriver. Bon, il s'agit aujourd'hui de faire le plus clair possible sur l'acte 10. Alors l'acte 10, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Pour moi, c'est du présent, c'est l'actualité par excellence. C'est samedi, puisqu'on enregistre la mercredi, hein, juste avant l'acte 10. Que s'est-il passé depuis que je me suis tué, il y a déjà un certain temps ? Il s'est passé plein de choses, notamment dans la dernière émission, on avait évoqué ce qui allait se passer, c'est-à-dire que un grand nombre de travailleurs, de gueux, se sont rendus compte qu'on les manipulait et ont décidé de se faire entendre, hein, les gilets jaunes. Les gilets jaunes ont raison. Les gilets jaunes ont toujours raison aujourd'hui. Donc, pourquoi cette révolte ? Pourquoi cette révolte ? On entend plein de gens parler aujourd'hui, hein. On voit arriver des tas de gens qui, pour légitimer ce qui s'est passé, ont besoin de trouver des nouveaux auteurs, hein, ceux qui se complaisent dans un discours à la marge, ou ayant écrit une nouvelle tentative d'une réponse à toutes ces questions. Alors moi, je les appelle les nouveaux auteurs, hein. C'est des philosophes.
C'est les nouveaux philosophes, oui. Les chroniqueurs,
les éditorialistes,
les analystes,
analystes
les
et autres. Bon, mais qui écrivent même des bouquins, hein, et il y en a qui se perdent un peu à la lecture de ces bouquins. Ils se réunissent entre eux, hein, pour inventer de nouvelles formes de combat. Alors, je pense que le RIC en fait partie, hein, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, comme si le RIC, à lui tout seul, allait sauver la situation. Il faut peut-être un peu rappeler, je pense, pourquoi les gens sont descendus dans la rue. Hein. Dans la rue, les ronds-points, c'est la rue. Hein. Donc c'est le terrain de la lutte de classe. Et si on revient à ces années fabuleuses qu'ont été les années 36 et 45, on se rappelle que la classe ouvrière, dans ces années-là, s'est dotée d'armes pour avoir une vie meilleure. Hein. Les congés payés en faisaient partie, la sécurité sociale, les retraites. Et depuis la constitution de la Ve République, c'est-à-dire 1958, ils n'ont cessé, hein, je dirais, ceux qui avaient le pouvoir, ceux qui se faisaient élire, ils n'ont cessé de détruire tous ces outils, qui étaient souvent liés d'ailleurs à des services publics. C'est pas un hasard, hein. Le service public, c'est l'application d'un droit. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de service public, il n'y a plus de droit. Et donc, on peut rêver d'une société où tout ça serait aboli et que tout le monde s'entendrait bien. Bon, il n'empêche qu'il y a des classes et il y a une lutte de classe. Donc, ce qui arrive, les gilets jaunes, c'est ni plus ni moins de la lutte des classes. Il ne faut pas essayer de dire que c'est la fête le soir, qu'ils vont avoir du mal à se séparer parce qu'ils ont fait la fête le week-end, alors ils ont besoin de se retrouver pour se sentir vivants. Ça, c'est les petits bourgeois qui racontent ça, les éditorialistes dans les médias, et moi, j'avoue qu'à chaque fois, ça me hérisse le poil.
C'est du mépris ?
C'est un mépris, c'est un mépris de classe, hein. C'est aussi essayer de trouver des raisons parce que ça leur fait peur. Et ils ont raison d'avoir peur. Parce que ce qui est arrivé laissera des traces de toute façon. Parce que on se rend compte que le pouvoir politique, dès l'instant où on lui pose un problème, peut lâcher des choses. Alors ici, bon, on n'a pas vu d'avancée terrible, mais je ne prendrai qu'un exemple. Hein. On les appelle les forces de l'ordre, des fonctionnaires forces de l'ordre. Notamment, hein, je parle des gendarmes, des policiers, qui commençaient un peu à ruer dans les brancards, parce que s'ils se faisaient maltraiter, les pauvres, et puis 8% ils ont pris. 8%, pas comme les retraités sur leur pouvoir d'achat, ils ont pris plus 8% sur leur salaire. Donc,
il a suffi d'une journée de mobilisation des forces de l'ordre pour obtenir ça.
Tout à fait,
syndicalement. On est à 10 semaines.
Tout à fait. Quand on regarde bien, lâcher ça, c'est pour se mettre bien sûr les forces de l'ordre de leur côté, parce qu'ils savent bien que c'est très fragile. Et lâcher ça, c'est tout à fait possible, hein, très rapidement, hein, il n'y a pas besoin de grandes décisions. Lâcher l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers, c'est pareil. Macron, il le fait d'autant plus qu'il sait que lui, ce qu'il est chargé de faire, ce sont des réformes. Et ces réformes, il a dit, on ira jusqu'au bout et on va essayer de... On va essayer de vous expliquer, parce que en fait, c'est parce que vous n'avez pas bien compris ce qui se passe. Et on va essayer de vous expliquer comment on va faire ces réformes. Vous allez voir que vous allez y gagner, hein, puisque j'ai été élu président de la République pour que... Donc il a fait une arme sur mesure, c'est le grand débat.
Et c'est ce que j'allais aborder. Est-ce que vraiment on l'aborde et on se penche dessus ? Est-ce que c'est de la poudre de perlimpinpin,
ben comme dirait ce cher Emmanuel ? On va y revenir, je vais aller au bout de mon explication, on va y revenir dans une deuxième partie pour expliquer exactement ce qui se passe au niveau de ces réformes. Donc j'ai parlé des congés payés 1936, de la Sécu 1945, et j'ai parlé aussi de la constitution de cette Ve République en 1958. Hein. Faut se rappeler que c'était un coup d'État de Gaulle, que cette Ve République, il y a eu quelques détracteurs, hein, pour se faire élire comme Mitterrand. Il a écrit un livre fabuleux, hein, à cette époque-là, ça disait... La Ve République est un coup d'État permanent. La Ve République est un coup d'État permanent depuis 1958.
Et Mitterrand en a bien profité.
Mitterrand, Hollande et consorts. C'est-à-dire que...
Jacques Chirac.
Jacques Chirac, bien entendu. Sarkozy. Aujourd'hui, Macron s'en sert comme d'une arme redoutable. C'est vrai que c'est une arme redoutable. Et moi, je discutais avec des syndicalistes qui me disaient, ça fait des dizaines d'années, là, depuis 1995, que le syndicalisme n'obtient absolument rien. Si ce n'est la limite de la casse des droits. Mais en matière de lutte pour obtenir de nouvelles conquêtes, il ne se passe rien. C'est-à-dire que l'arme 5e République est utilisée complètement à fond. Ces conquêtes sociales s'en vont en petits morceaux. On peut regarder dans l'actualité, par exemple, ce qu'est la réforme, par exemple, de l'impôt sur le revenu que veut faire Macron. Macron, il a fait en sorte que maintenant, il y a toute une frange de la population qui ne paye plus d'impôt sur le revenu.
Ça peut avoir l'air...
Un plus, parce
tout
que
à fait.
Lui, il l'explique en disant, voilà, j'ai fait ça, c'est pour que les gens aient plus d'argent pour eux. En fait, non. Le piège, il se retourne contre ceux qui pourraient le penser.
Comme à chaque fois qu'on anéantit une cotisation sociale, en fait.
Exactement. Alors, prenons ce qu'est...
Est-ce qu'on peut faire une petite pause musicale avant de partir sur l'histoire de la cotisation sociale, son importance et le fait qu'il ne faut évidemment pas les supprimer en se disant simplement qu'on gagne du pouvoir d'achat. Et tu vas nous dire ça après la musique.
Ah oui, on va pouvoir faire une petite pause, hein, en se rappelant qu'on est toujours sur Tribune Libre.
Hein. Et qu'on écoute Erdiwa.
On écoute Erdiwa. Erdiwa, c'est pas compliqué, Erdiwa. Hein, c'est 107.5 FM. Sinon, www.erdiwa.com. rdwa.fr.
Donc rdwa.fr pour écouter en direct sur Internet et puis retrouver les podcasts.
Alors là, on va écouter... j'ai redécouvert récemment cet album qui est un album de 1969 fait par un chanteur que bon, beaucoup ont oublié, hein, Donovan. Je pense que de ce qu'a fait Donovan, c'est ce qu'il a fait de meilleur au niveau musical et puis au niveau aussi du message, parce que cet album d'un poète pourrait paraître tout à fait, on va dire, drôle. Et quand on l'écoute bien, on s'aperçoit qu'il est directement branché sur cette époque, 69, juste après 68. C'était le conflit à ce moment-là était mondial. Enfin, faut pas oublier qu'il y avait la guerre du Vietnam, etc., etc. Et que donc il a fait quelque chose de vraiment très bien. On va commencer par écouter Changes.
Right, everything is wrong. Don't let the changes get you down, man. Everyone is wrong, everything is all right now. Don't let the changes get you uptight. But if you're toasting, let's go. Button up a coat and I'm gonna go off of the coast. We must go. Don't wanna boast, but I grow much better now. Don't let the change.
Changes de Donovan, et juste avant cet excellent morceau, tu nous parlais des petites anicroches que faisait Macron, que fait Macron et que compte faire Macron encore sur notre fiche de paye, en nous sucrant des choses, en rajoutant de l'autre côté, etc. Donc là, on était plutôt sur l'impôt sur le revenu.
Voilà. Donc Macron, il explique à tous ceux qui veulent bien l'écouter qu'il veut redonner du pouvoir d'achat. Donc, je disais que une partie de ceux qui payaient des impôts encore il y a quelques années n'en payent plus. C'est-à-dire que s'il y avait une preuve que le pouvoir d'achat a baissé, c'est bien celle-là. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de plus en plus important de personnes qui ne payent plus d'impôts sur le revenu. Ils n'ont plus les moyens, en fait. Hein. Cet impôt sur le revenu, normalement, il est destiné à être redistribué. C'est le rôle de l'État. L'État
collecte
l'impôt. le redistribue et...
redistribue dans les services publics, dans le financement de tout ça,
tout à
de
fait,
la vie collective.
Dans ce qu'il regarde en tant qu'État, dans les ministères, etc. etc. Et donc cet impôt-là fait défaut. De toute façon, si on regarde bien, on pourrait dire on a moins d'argent à redistribuer. Donc le baratin, il va un peu plus loin, parce qu'il y a les réformes de Macron. Et la réforme de Macron, c'est de dire... on va supprimer ces impôts et on va faire des cotisations sociales. Parce qu'il y a le trou de la sécu, et le trou de la sécu, on va le combler comme ça.
C'est un grand mythe, ça, quand même, le trou de la sécu. Moi, depuis que je suis enfant, j'entends ce truc de trou de la sécu, une sorte de truc qui apparaîtrait... la plupart du temps, quand même, on essaye de nous faire croire que c'est de notre faute.
Alors,
on gérerait mal.
Oui, tout à fait. Ouais. Le trou de la sécu, il a une histoire, la Sécu était gérée de manière tripartite, les patrons, les syndicats, et puis, on va dire, des représentants de l'État. Mais enfin, c'était géré par les patrons et les travailleurs, les représentants des syndicats. Et puis, il y a eu des choses qui sont arrivées, la crise de 1974, et on a dit, les patrons ont fait pression sur le gouvernement en disant, nous, si on paye notre partie, à l'URSSAF, on ne peut pas garder les gens, donc on va licencier. Donc pour ne pas licencier, il faudrait nous exonérer de notre partie. Enfin, il faut savoir que cette partie-là, c'est du salaire différé, c'est-à-dire de l'argent qui a été gagné par ceux qui ont travaillé et qui était pris sur le salaire pour organiser la sécurité sociale, organiser les retraites, etc., etc. Quand je dis etc., etc., je vais peut-être un peu vite. On prend cet argent-là sur le salaire et c'est la partie du salaire que versera le patron de son côté. Et de son côté, le travailleur, sur sa fiche de paye, on lui enlève une partie. On appelle ça du salaire différé. Donc la partie du patron manquant, le nombre de chômeurs augmentant, ce trou de la sécu, il s'est fait soi-disant comme ça. Puisque l'État a autorisé les patrons à ne pas payer leur part. Alors, quand je dis les patrons, c'est vraiment les gros patrons, des grosses boîtes, hein, ceux qui détiennent les moyens de production à une échelle...
On ne parle évidemment pas de l'artisan du coin qui se paye 1000 balles par mois, on est d'accord.
On
ne
parle pas des petits patrons, et on en est venu à entendre un langage qui était « oui, bon, on n'y arrive pas parce qu'on a trop de charges ». C'est-à-dire que l'État a réussi à faire disparaître de la mémoire collective que ces choses-là, ce n'est pas des charges.
C'est des morceaux de salaire qui sont alloués à
c'est de la richesse créée par des travailleurs qui devaient être distribués, la solidarité, c'est-à-dire la Sécu de 45 et les retraites. Donc ce trou de la Sécu, voilà comment il a été fait. C'est-à-dire qu'on a exonéré des grands patrons de leur partie de ce salaire différé qui a fait défaut dans les caisses. Alors, après, on a aussi fait en sorte que la gestion des syndicats n'était pas bonne. Alors, un coup, les syndicats, un coup, c'était tel syndicat qui gérait, parce qu'il fallait qu'il y en ait un qui soit à la tête, et on a accusé les syndicats de piquer dans la caisse. Et un jour, le trou augmentant, l'État a dit « c'est pas compliqué, c'en est terminé de cette gestion, c'est l'État qui prend en charge » la gestion de la Sécu. Comme ça, vous n'aurez plus de problème, on ne parlera plus du trou, etc. Quelques années après, bien sûr, on nous a rappelé que l'État faisait ce qu'il pouvait, mais qu'il y avait un trou, et que ce trou, comme de toute façon on exonérait de toute façon les patrons, le trou, il faisait que ça grandir. Et que...
Les mythes sont réinventés en fonction des oppositions qui se soulèvent. Moi, je vois là, par exemple, qu'il y a déjà des choses qui sont déjà venues dans le débat avec les Gilets jaunes, qui sont déjà venues par des soulèvements passés, auxquels on trouve des nouvelles petites variations de réponses pour encore essayer de nous clouer le bec sur quelque chose, avec la toute-puissance et le savoir qu'on n'aurait pas, parce qu'on ne peut pas vraiment comprendre et qu'on n'est pas vraiment fait pour. Mais finalement, c'est les mêmes choses qui se soulèvent à peu près, avec les mêmes réponses bricolées qui s'adaptent en fonction de l'époque.
De toute façon... Tu as entièrement raison, on n'invente rien, Macron n'invente rien, Philippe, Ça me fait drôle quand je dis ça à Philippe.
Tu m'étonnes.
Pas pris Edouard. Du livre, hein. Edouard. Edouard Philippe n'invente rien. Il ne fait qu'utiliser les armes utilisées par d'autres.
Par les prédécesseurs.
Ouais. Et donc, puisqu'on est dans ce débat-là, donc, on va prendre une partie de ce qu'a inventé... Alors, celui qui a inventé ça, c'est quand même un type qui aujourd'hui a disparu, hein. C'est Rocard, qui a inventé la contribution sociale généralisée.
Absolument.
En disant, on va s'en servir quelques temps, c'est pour le trou de la sécu, on va régler avec ça la CSG.
Elle vient de réaugmenter.
Et oui, elle vient de réaugmenter, notamment...
ça ne date pas d'hier, quand même.
Non, ça ne date pas d'hier. Et notamment pour les retraités. Quoi de plus facile que d'augmenter la CSG sur les retraites? Les retraites, généralement, c'est des bons vieux pépères, mémères dans leur coin. On va leur en piquer un peu plus.
Et en prime, ils ne peuvent pas faire grève.
En prime, ils ne pourront pas faire grève. Et puis, ça porte un nom qui est vachement joli, hein. Contribution sociale généralisée. Tout le monde paye, ce n'est pas très grave. Et en fait, quand on regarde derrière tout ça, ce qu'il y a, une volonté... de l'Europe, de dire voilà, en France, vous avez un système un peu à la noix, il faudrait que vous unifiez... Il faudrait que vous unifiez un petit peu votre système d'impôts. Alors, bien sûr, ils se défendent toujours de dire, oh là là, la CSG, c'est pas un impôt. Et si, la CSG, c'est un impôt, pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle va être dans leur idée... elle va être complètement associée à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que ça sera plus... pour l'instant, c'est encore géré par l'URSSAF, les caisses. Mais ce qu'ils voudraient, c'est que l'État n'ait plus à gérer ce genre de choses. C'est-à-dire que pour la Sécu, ça sera un impôt sur les salaires. Et puis, il y a vraiment un impôt, parce que là, il n'y a pas de tranche. Hein, c'est-à-dire que tout le monde paye pareil. C'est vraiment dégueulasse. C'est impossible de laisser ça en l'État. Et cet impôt sur le revenu, qui serait, lui, tout à fait normal de payer, avec beaucoup plus de tranches, justement, pour qu'il soit plus
juste,
celui-là, on fait disparaître, et l'État n'a plus à gérer ça. Et en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est généraliser ce genre de fonctionnement. En même temps, on fait disparaître des services publics. Les impôts, c'est un service de proximité. Il y avait un truc qui n'allait pas, on allait voir le service, à côté des mairies, souvent, c'était... ça, on va le faire disparaître aussi, parce que ça sera géré électroniquement,
Par exemple, est-ce qu'ils oseront sous-traiter ça au privé, par exemple?
Mais bien sûr. Le but, c'est ça, en fait. Hein. Le but, c'est de... tout ce qui est service public, c'est de le privatiser, puisque leur grand truc, c'est de dire, voilà, dans ces services républicains, de solidarité, etc., ils passent des milliards et des milliards, cet argent-là ne va pas dans les banques, ne va pas à la spéculation, donc c'est un manque à gagner pour les spéculateurs, pour le capital. Et donc leur grand truc, c'est de récupérer tout ça en bousillant les services publics et en les privatisant. Bon, on en vient, alors j'espère avoir été à peu près clair, hein, donc... les acquis de 36-45, leur but, c'est de revenir dessus progressivement. Donc, de 58 à aujourd'hui, ils ont quand même mis pas mal de temps. Mais aujourd'hui...
Oui. L'attaque est quand même frontale.
Ah oui. Et aujourd'hui, Macron, il veut terminer avec tout ça. Hein. Il veut... Et puis, en plus, il veut être le premier en Europe à vraiment dire, voilà, moi, je réussis. Bon, bien sûr, il est encouragé par tous les autres, hein, Trump et compagnie. Hein. Surtout, soyez... Et donc, ils ont inventé un grand truc. Hein. La répression, ça n'a pas trop bien marché, parce que l'acte 9, il a vu plus de monde. J'espère que l'acte 10, ça sera pareil. Et même si ce n'est pas pareil, c'est entré dans les mémoires, dans la mémoire collective. C'est-à-dire qu'ensemble, on est fort. Et finalement, Macron ou pas, avec ses milliers de CRS, on arrive à faire plier, hein. Je vous parlais de l'exemple des flics, là, 8% en 2 jours, hein, c'est bon. Donc,
Mais on sait ce qui se passerait, c'est quand même simple. C'est-à-dire que des inégalités comme ça, enfin des injustices sur les prélèvements, les impôts, sur des gens qui sont déjà dans une certaine précarité, ça va amener plus de pauvreté, plus de précarité, avec évidemment en plus très peu de boulot. Enfin, il va y avoir encore plus de gens pauvres, des gens dans une misère extrême, alors qu'il était censé régler le problème des gens dans la rue. Emmanuel Macron... on voit bien que il a rien fait dans ce sens-là. Donc, plus de gens dans la misère, et donc ça veut dire des choses qui coûtent un pognon de dingue selon lui, c'est les minima sociaux, les choses qu'on donne aux gens, voilà, là, qui n'ont plus de ressources, type le RSA, les aides en question, enfin tout ce que fait la CAF en fait. Du coup, il préfère finalement donner ces miettes-là, laisser des gens dans des situations de précarité, parce qu'il va y avoir des morts en fait. Enfin, c'est impossible que ça tourne pas comme ça. Est-ce qu'on peut clairement dire que ce mec-là s'en fout?
Oui, il s'en fout. Lui, il s'en fout. Et ceux qu'il représente s'en foutent complètement. Parce que leur but, c'est pas du tout d'organiser une société égalitaire. Hein. Leur but, c'est de faire gagner de l'argent à des actionnaires,
à des gens, des petites mains et des ouvriers, il y en aura toujours, ça on peut se rassurer. Ben et oui. Du coup, ils sont rassurés, eux. Ils se disent qu'en fait, même s'ils en font crever un peu, il y en aura toujours.
Oui. Et puis la plus-value, elle est faite sur le travail humain, hein, de toute façon.
Oui,
et on n'est pas à l'ère où les robots ont remplacé. Peut-être que c'est leur idéal, hein, donc, mais en attendant, l'humain, l'homme, se battra toujours contre ça.
Bah, en tout cas... contre ou pas contre, moi j'ai lu des choses intéressantes sur ce truc d'être remplacé par des robots. C'est-à-dire que si tous les boulots de merde, on va dire ça comme ça, sont remplacés par des robots, on se dit que vont faire les gens. Bon, effectivement, ça se pose un problème, que vont faire les gens pour vivre. Effectivement, ça veut dire que ça prend place dans un changement global où on donne aux gens de quoi vivre sans qu'ils aient à l'avoir par le biais du travail. Ça, c'est pas non plus le but de Macron.
Ah non, 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 là on est dans la
science-fiction.
On est dans la science-fiction. Absolument. Et on est du côté où tu as des gens comme toi et moi qui sont tout à fait humanistes et qui ne voient pas une société dans laquelle il y aurait des choses, comment dire...
Des gens qui n'aient pas leur chance de...
Ouais, c'est même pas
leur droit.
Qui n'aient pas leur chance, qui n'aient pas leur dignité. Hein,
ouais.
Parce que quand on regarde bien le travail, avoir un boulot, c'est avoir une certaine façon d'avoir une certaine dignité. Si on nous enlève ce droit au travail, on n'a plus cette dignité. Le droit à l'instruction, c'est la même chose. Le droit à la santé, c'est la même chose. Là, on est vraiment dans des droits. On peut pas imaginer une société sur laquelle on aurait fait le vide là-dessus et où on aurait inventé autre chose. Bon, là, comme je disais au départ de l'émission, il y a des doux rêveurs qui font des bouquins là-dessus et qui continuent. Hein. La science-fiction, ça fait de mal à personne. En attendant, on n'est pas dans ce schéma. Donc les réformes du gouvernement, c'est pour arriver à la solution que j'ai évoquée tout à l'heure. Et leur grand truc, ça va être de noyer le poisson. Dans quoi ? Ben dans le grand débat. Bon, on l'a vu hier. Hier, c'était mardi.
La pièce est même pas bonne.
Non, ils ont fait un casting. Ils ont dit où on va pouvoir organiser ce grand truc médiatique. Il faut qu'on trouve un bled dans un département.
C'est pas sympa parce que le nom du bled est complètement indicible.
Oui, en plus il est...
C'est dans l'heure, c'est tout ce que je vous dirais.
Imprononçable.
Désolé, les Normands.
Oui. Et puis, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait un casting parce que ceux qui ont posé des questions sont à un milieu où il n'a pas été évoqué de grandes choses. Hein. Moi, je l'ai un peu suivi pour dire vraiment, bon, il y a bien des maires qui vont mettre les pieds dans le plat. J'en ai vu aucun, j'en ai entendu aucun.
Évidemment qu'il y a un casting.
Bien sûr, oui.
Et est-ce que ça a une chance de calmer certains? Moi, je ne crois pas. Je crois qu'à chaque sortie d'Emmanuel Macron, il fait justement des sorties, pour être clair, des phrases qui sont toutes plus violentes les unes que les autres. Et que dans ce débat-là, il a encore sorti des énormités. Il fait qu'à allumer... est-ce qu'il s'en rend compte qu'il jette de l'huile sur le feu?
Moi, je ne le connais pas assez personnellement. Moi, je pense qu'il a des... il a auprès de lui des gens qui doivent lui dire quand il a un peu dépassé le trait.
Il ne
faut pas oublier que ce mec-là, c'est un jésuite quand même, hein, et que sa formation, elle est tout, un peu tous azimuts. Donc, il a notamment pris une certaine assurance dans la communication. Maintenant, il est capable de parler devant une salle remplie, de sortir des inepties royales.
Avec un aplomb incroyable.
Avec un aplomb incroyable et... ça ne le fera pas changer d'un iota, je pense. Pareil, le fait de dire, voilà, dans les mairies, vous allez pouvoir... et là, ils ont employé un vocabulaire qui est proche de celui du vocabulaire de la Révolution. Dans les mairies, il va y avoir des cahiers de doléances. Cahiers de doléances, bah, quand on voit ce qu'il y a dans les cahiers de doléances, déjà, on peut quelquefois avoir peur. Si, au mieux, quand on a recopié... ce qu'ont écrit les Gilets jaunes, qui est tout à fait juste, logique, etc. Si on a pu recopier la page complète, on est à peu près dans la doléance, hein, et ça peut être écrit. Quel traitement va en être fait, on le sait pertinemment. Ils ont déclaré...
C'est prévu.
Et dans sa lettre, Macron a dit que de toute façon, il y a des choses qui ne seraient pas changées. L'ISF, on n'y touchera pas, etc.
D'ailleurs, oui. Juste en passant quand même, cette lettre qui va finir par être envoyée par courrier pour un coût de 10 millions d'euros.
Oui.
Voilà. Bon, après, c'est peut-être symbolique pour l'État, mais c'est lourd de sens.
Voilà. C'est pas un symbole. C'est déjà mettre autant d'argent dans un truc pareil, c'est pareil, c'est jeter à la gueule des plus pauvres que du fric on en a, mais on en fera ce qu'on en veut, quoi. C'est pas ces 10 millions, ils n'auront pas dans vos poches pour après Noël, etc. Vous les aurez pas.
Ils n'auront pas dans vos hôpitaux pour venir vous soigner, voilà. Ni dans vos écoles.
Et aujourd'hui, je pense que du côté des Gilets jaunes, comme du côté des Insoumis, comme du côté des syndicalistes, comme du côté des gens qui ne sont ni l'un ni l'autre, y a des questions qui se posent. À savoir, faut faire un grand pas en avant. On ne va pas pouvoir rester comme ça parce que. D'un côté, les aides-soignantes, les infirmières qui se battent pour avoir des conditions...
Les aides-soignants et les infirmiers aussi.
Oui, les aides-soignants et les infirmiers. Je suis d'accord. qui se battent, les conducteurs et les conductrices de train, pareil. J'aurais dû mettre conductrice d'abord.
Travailleurs, travailleuses.
Et qui se battent, se disent, va falloir qu'on fasse un pas en avant. J'avais évoqué dans une précédente émission un appel du 10 novembre 2018... du Conseil national de la résistance et de la reconquête, qui s'est tenu à Paris, qui a été suivi par 2000 personnes, 2000 personnes qui étaient représentants de différents coins en France, qui ont lancé un appel. Alors cet appel, bien sûr, du 10 novembre, bon, il commence à dater un peu, il va falloir le remettre à jour, et il proposait à tous ces gens qui se posaient des questions, comment on fait pour avancer. Il proposait de se dire, voilà, on se réunit en comités locaux de résistance et de reconquête, personne n'a d'hégémonie l'un sur l'autre, et on travaille ensemble pour arriver... tout ce qui a été proposé avec les ronds-points, les manifs qu'il y a eu jusqu'alors, dans les discussions qu'on a pu avoir, on s'aperçoit qu'il y a un manque. Ce manque-là... Le comité national de reconquête et de résistance propose localement de réunir ces comités. On fera ce qu'on peut dans la vallée de la Drôme, mais je pense que rapidement, il va falloir se réunir pour décider de ce qu'on va pouvoir faire.
Ben, en attendant, on va déjà retrouver... les manifestants samedi pour voir un peu ce que ça donne et si ça continue, moi j'en doute pas trop. Et ce que ça donne au niveau de la réponse du gouvernement, j'imagine encore quelques tirs de flashball malheureusement, quelques arrestations plus ou moins arbitraires. Et puis on se retrouve et on en reparlera, j'imagine, il y aura plein d'autres choses à dire et de sujets à creuser et en ta compagnie et peut-être en celle de l'autre Philippe un jour, qui sait, si on le retrouve dans la forêt, il s'est perdu dans la forêt.
On espère qu'il va être sur pied là et puis qu'on va pouvoir continuer, j'en doute pas de toute façon. Voilà, bon, pour terminer, alors bien sûr, on va se retrouver sur les mêmes thèmes et sur d'autres pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est important. Je pense pas qu'on va pouvoir entamer un autre sujet maintenant. On va terminer par...
De la musique.
Alors, je vous rappelle que bon, Tribune Libre, c'est sur RDIWA, hein, 107.5 FM et www.rdiwa.fr sur Internet, qu'on peut nous retrouver alors dans les 15 jours, quoi, parce que je pense qu'on proposera une émission tous les 15 jours. Pour terminer, on va se terminer avec un petit morceau.
Toujours de Donovan.
Ah oui, Donovan, parce que vous allez découvrir quelque chose de sympa. Faut bien écouter les paroles. Alors bon, c'est en anglais.
Oh, mais, le titre, c'est pas facile, mais...
Ricky
Tiki
TV. Et c'est l'histoire d'une mangouste. Et on essaiera de comprendre dans l'histoire que ben, finalement, faut employer les bonnes...
La mangouste, c'est un gilet jaune ou c'est plutôt Emmanuel Macron?
Alors, la mangouste, c'est un gilet jaune.
Très bien. Ouais, merci Philippe et merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute de Tribune Libre. On se retrouve très bientôt.
Très bientôt.
Some more.